Bonjour et bienvenue dans Québec au pluriel, le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. On continue avec un nouvel épisode sur le thème de la musique, le troisième en ligne si je ne me trompe pas, mais je trouve que c'est une très bonne thématique en cette saison estivale. J'avais rencontré mon invitée une première fois pour rédiger un portrait d'elle dans le numéro d'avril de Quartier Libre. Quartier Libre qui est le journal indépendant des étudiants et des étudiantes de l'Université de Montréal, parce qu'elle est étudiante à l'Université de Montréal, ou plutôt jeune diplômée. On avait donc parlé de son parcours d'études et de ses ambitions professionnelles, mais je sentais qu'il y avait beaucoup de choses à dire en plus, et elle était très emballée par mon concept de balado. Voici donc notre discussion plus axée sur son histoire personnelle d'adoption notamment, et la construction de son identité. Bonne écoute! Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Salut Edelaine.
Bonjour.
Ça va bien?
Très bien, toi?
Très bien, merci. Merci d'être venue à CISM enregistrer cet épisode.
Ça fait plaisir. Merci donc, de l'invitation.
CISM, on est la radio des étudiants de l'Université de Montréal, université dont tu viens d'être diplômée.
Exactement. En mai 2024, qui vient juste de passer. Voilà.
Est-ce que tu peux me rappeler le nom du programme dans lequel tu as étudié?
Oui, bien, dans le fond, j'ai fait mon bac en interprétation chant jazz, mais je l'ai commencé en interprétation trombone jazz, mais je l'ai fini, c'est ça, en chant.
OK. Et la première question que je pose toujours à mes invités, en fait, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce que je veux que les personnes soient libres de dire ce qu'elles veulent à propos d'elles-mêmes. Donc, voilà. Est-ce que tu peux te présenter?
Bien sûr. Voilà. Edelaine Fitzgerald. Je suis étudiante diplômée de l'Université de Montréal. Bientôt à l'aube de mes 25 ans, je suis aussi chanteuse, interprète, compositrice. C'est ça, je suis d'origine haïtienne. J'ai été adoptée quand j'avais 9 mois. Donc, je suis vraiment de nationalité canadienne, mais d'origine haïtienne. Puis, voilà, c'est pas mal ça. J'ai grandi la majorité de ma vie dans la région de Saint-Hyacinthe. Puis, je suis à ma 5e année de vie à Montréal maintenant. Fait que, voilà.
Et justement, c'était comment de grandir à Saint-Hyacinthe? Est-ce qu'il y avait de la diversité?
C'est différent. C'est ça, c'est vraiment un autre monde. Côté diversité, je pense que rendu peut-être plus à l'école secondaire, j'en ai vu un peu plus. Mais tu sais, quand j'étais au primaire, je veux dire, je viens de la région de Saint-Hyacinthe, mais plus précisément de Saint-Jude, qui est un petit village à peu près une 15aine de minutes de là. Puis, comme dans le nom, tu sais, c'est très petit village éloigné du Québec. Donc, côté diversité, il n'y en avait pas beaucoup. En fait, j'étais littéralement la seule noire dans mon village, comme on dit. Puis c'est ça, c'est vraiment plus au secondaire. Là, il y a quand même une bonne diaspora congolaise, ivoirienne haïtienne aussi à Saint-Hyacinthe. Fait que à l'école secondaire, il y en a eu un peu plus, mais tu sais, encore là, c'est quand même une école secondaire de région, donc la majorité est vraiment pas dans la diversité, là.
Et toi, comment tu l'as vécu, ça? Est-ce que c'était difficile?
Difficile, j'ai l'impression qu'avec du recul, je pourrais dire que oui. Comment j'expliquerais ça? C'est qu'on dirait qu'à force, quand j'étais jeune, tu sais, j'étais entourée des gens qui mentionnait pas nécessairement tout le temps la diversité de la même façon, mettons, qu'à Montréal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on dirait que je m'étais habituée, peut-être je me suis rendu confortable dans l'inconfort de ne pas avoir beaucoup de semblables, puis aussi, malheureusement, dans les micro-agressions. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé plus tard, en vieillissant, en fait, là, en déménageant à Montréal, mais aussi en vieillissant, puis dans mon cheminement personnel, qu'il y a beaucoup de commentaires qui m'était passé quand j'étais plus jeune, justement au secondaire, qui ne passait pas, en fait, là, mais qui était juste très normalisé parce que tout le monde les disait, puis ça passait dans le beurre, là, si on veut. Là.
Ouais, puis j'imagine que c'était aussi une autre époque.
Ben, quand même.
Et qu'on s'est rendu compte ces dernières années qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas tolérer.
C'est ça. J'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux aussi, il y a beaucoup de termes puis d'explications de certaines situations que, ben, qu'on peut vivre en tant que personne qui fait partie d'une minorité visible. Puis, c'est ça, j'ai l'impression que ça m'a grandement ouvert les yeux sur des choses que, hey, peut-être que ça se dit pas, puis il y a peut-être une raison de pourquoi je me sens mal à l'aise dans ce commentaire-là, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai pas de souvenirs, mettons, par rapport à mes proches, tu sais, vraiment mes amis proches, tout ça, mais peut-être plus, tu sais, des compagnons de classe, des gens qui sont vraiment proches de moi, tu sais. Je pense que j'ai été choyée d'avoir un entourage qui était assez ouvert d'esprit pour éviter justement de passer ce genre de commentaires-là, mais... c'est ça, ça l'empêche pas qu'avec du recul, on dirait que je me rends compte qu'il y a des choses qui ont été dites et peut-être faites que c'était peut-être pas legit, comme on dit, là, mm-hmm. C'était peut-être pas correct.
Comme tu disais, donc tu as été adoptée par une famille québécoise en Haïti.
Exactement.
Donc, je ne vais pas te poser la question de si tu te souviens quand tu es arrivée, parce qu'à 9 mois...
Non, c'est ça, 9 mois, j'étais très jeune, là, mais...
Mais... Est-ce que vous parliez beaucoup de l'adoption avec tes parents?
Ah oui, ça n'a jamais été un secret. De toute façon, ça n'aurait pas vraiment fonctionné côté secret. Là. Mais ça a toujours été une histoire très ouverte avec mes parents. Ben, je dis mes parents adoptifs, mais c'est mes parents, là, dans le fond. De tout jeune, ma mère m'a toujours raconté mon arrivée au Québec. C'est ça, moi je suis arrivée ici à 9 mois. Donc en juillet 2000, je suis née en octobre 99, le 11 octobre 99 précisément. Puis c'est ça, je suis arrivée en juillet 2000 au Québec. Puis c'est ça, j'ai toujours vécu dans la même maison. Mes parents encore la maison d'enfance à Saint-Jude. Puis c'est ça, j'ai fait mon école primaire dans le même coin, Saint-Jude, etc. Puis c'est au secondaire que je suis partie à Saint-Hyacinthe. Mais c'est ça, ça n'a jamais été quelque chose qui était caché ou qui était un secret ou quoi que ce soit, là.
Ton nom de famille, c'est Fitzgerald?
Exact. Ça, c'est le nom de famille adoptif, de mon père adoptif, dans le fond.
Ouais. Et donc, c'est un nom irlandais?
Exact.
Est-ce que vous avez encore un contact avec cette culture irlandaise?
Ben, plus ou moins. C'est sûr que, tu sais, les Fitzgerald, c'est tout le côté de mon père. Donc, mettons, à la Saint-Patrick, tout ça, tu sais, on célèbre quand même.
Okay.
Mais, tu sais, on n'est pas... On n'est peut-être pas les gens qui fêtent le plus ou qui se collent le plus au drapeau irlandais, tu sais, vraiment comme on est irlandais, tout ça. Tu sais, on dit plus que notre nom de famille a des origines irlandaises que nous sommes irlandais. T'sais.
Et donc, dans la culture que tes parents t'ont transmis, c'était vraiment plutôt québécois, francophone?
Oui, à 100%. C'est sûr qu'ils nous ont toujours fortement encouragés à développer l'anglais aussi, parce que mon grand-père, du côté de mon père, justement, s'appelait Harry Fitzgerald, puis lui, c'était un anglophone. Donc, tu sais, il parlait beaucoup plus anglais que français, ce qui fait que mon père aussi est pas mal bilingue, il est pas anglophone, mais il est bilingue. Fait que il y avait tout le temps un moment donné chez moi que bon, mes parents disaient, OK, là, on va parler en anglais, on va essayer voir pour pratiquer tout ça. Quand on écoutait la télé longtemps aussi, après ça, c'était comme, bon, vous avez écouté la télé assez longtemps, maintenant, si vous voulez l'écouter encore, vous l'écoutez en anglais. Donc, ça a vraiment développé aussi mon oreille en anglais, là, 100%.
Ouais, c'est intelligent d'avoir fait ça.
Mm-hmm.
Mais au niveau de la façon dont vous vous définissiez, est-ce que vous vous perceviez comme une famille... québécoise.
Ah oui, ça, 100%, le typique québécois. Tu sais, toutes les fêtes qu'on peut imaginer, tu sais, que, mettons, là, je dis pas des fêtes québécoises, là, des fêtes peut-être plus reliées au christianisme et tout ça, parce que c'est ce qui est à la base de la société québécoise, en fait, là. Mais, tu sais, on fêtait Noël, on fêtait l'Halloween, tu sais, on faisait vraiment tout comme... pas comme tout le monde, là, mais comme la société québécoise en général, là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment été élevé dans une famille québécoise.
Et toi, est-ce que tu te posais des questions de te dire, est-ce que j'appartiens vraiment à ça?
Oui, un peu. On dirait que plus jeune, c'était plus des questions par rapport au physique, en mode, moi, je ressemble à personne. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui me dérange? Est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais pousser? Puis, il y a un moment dans ma vie aussi où j'ai eu vraiment des fortes envies, mettons, de retrouver ma famille,
biologique.
Biologique, exactement. Biologique. Et puis, mais on dirait qu'à un moment donné, plus je vieillissais, plus cette envie-là, elle s'est pas dissipée, mais elle s'est un peu calmée. De part, je pense que j'ai réussi à trouver un petit peu plus d'appartenance en vieillissant, puis en côtoyant aussi plus de mes compères, plus d'amis haïtiens, plus d'amis de la communauté noire, des gens qui me ressemblent autrement. Fait qu'on dirait que j'ai pu aller chercher cette ressemblance-là comme ça.
Ah, de ce que je comprends, en fait, tu ressentais ce besoin d'aller chercher ta famille biologique parce que tu avais besoin d'appartenance.
Exactement.
Et tu l'as trouvé. C'est ça. À puis Montréal, j'ai au Québec.
Exactement. C'est ça. J'ai pu trouver comme une autre façon d'avoir un peu plus d'appartenance. Mais, c'est sûr que. Au fil de la vie, tu sais, il y a d'autres questions, tu sais, en vieillissant qui me viennent à l'esprit, tu sais. Puis, des fois, c'est aussi simple que genre des situations banales où est-ce que je vais avoir un groupe d'amis qui est majoritairement blanc, par exemple. Puis, il y a des choses, mettons, que je vais penser ou que je vais dire, puis je vais réaliser que, tu sais, c'est pas pour mal faire, mais ils ne comprennent pas nécessairement ce que je veux dire. Ils comprennent pas le feeling que j'essaie d'exprimer. Puis, tu sais, je veux dire, je leur en veux pas, là. On vit juste pas la même réalité. Fait que des fois, je pense que ça a pu peut-être être un peu difficile, mais je suis capable de prendre un step back puis de faire comme « Hey, cette partie-là, je pense que c'est juste une question de on n'a pas le même vécu puis on n'a pas le même... C'est ça, on n'a pas le même background. » Puis c'est ça, tu sais, si quelqu'un regarde de l'extérieur, tu sais, ça a été beaucoup... un genre de bataille à l'intérieur parce que pendant longtemps, en fait, j'ai eu de la misère à m'identifier parce que quand je parle, tu sais, je veux dire, j'ai un fort accent québécois, j'ai été élevé par des Québécois puis ça a été ça ma vie, je veux dire. Fait que ça peut pas vraiment changer. Fait qu'on dirait qu'en vieillissant, à côtoyer des gens qui faisaient partie des minorités, tout ça, on dirait que je venais chercher un certain sentiment d'appartenance en faisant du code switch, en changeant mon accent pour être plus avoir plus d'appartenance justement avec la communauté noire parce que j'avais de la misère à me sentir intégrée, mais dans l'autre sens, j'étais pas plus blanche, entre guillemets, puis j'étais pas plus, tu sais, visuellement, si quelqu'un me voit dans la rue, tu sais, ça m'est arrivé d'aller au Rona, de m'exprimer pour aller acheter de la peinture, puis on m'a félicité sur mon français, tu sais, à quel point je parlais bien français, puis à quel point je m'exprimais bien, mais je suis comme, tu sais, je veux dire, j'ai toujours vécu ici, fait que c'est difficile, on dirait, de se retrouver, de sentir où est-ce qu'on fit, parce que visuellement, je suis une femme noire, à l'intérieur de moi aussi, sauf que j'ai un background de femme noire adoptée. Donc mm-hmm. Ça, c'est une réalité que je pense que seuls les gens adoptés peuvent peut-être relate à ce sentiment-là de « mais moi, dans le fond, je fit où? Je suis qui, moi? » Puis c'est ça, ça m'est déjà arrivé de me faire dire « ah, mais t'es pas assez noire, tu sais, par des noirs. »
Ah ouais?
T'sais, plus le sentiment d'appartenance. Fait que là, tu sais, ça vient vraiment trigger à l'intérieur en mode, OK, mais qu'est-ce que je dois faire pour être plus noire? Parce que je subis les mêmes micro-agressions, je subis les mêmes commentaires, et on me regarde de la même façon, tu sais. En plus, moi, je suis une femme noire non hétérosexuelle, donc déjà là, ça fait quand même trois coups durs dans la société. Donc, c'est ça, c'est quand même assez difficile, on dirait, de se retrouver là-dedans. Mais c'est ça, je pense qu'en vieillissant, je prends de plus en plus confiance dans qui je suis. Puis d'essayer aussi d'embrasser tous ces côtés-là de moi, parce que si j'étais pas comme ça, honnêtement, peut-être que je serais même plus ici, tu sais, peut-être que je serais morte, tu sais, si j'avais pas ce côté québécois-là. En fait, ce côté québécois, c'est ma famille qui m'a adopté, qui m'a sauvé d'une situation, tu sais, qui était périlleuse. Donc, c'est ça. Fait quand on me dit, ah, t'es pas assez ci, pas assez ça, ça vient vraiment me chercher, parce que je suis comme, dans le fond, on renie ma vie au complet. Parce que, tu sais, je veux dire, je suis adopté, j'ai pas choisi d'être adopté, mais en même temps, si j'avais à le refaire, je le referais à 100% parce que c'est ça qui m'a permis de vivre la vie que je vis en ce moment même.
Puis j'ai l'impression que tu es aussi très proche de tes parents.
Ben oui, à 100%.
C'est pas comme si tu étais dans une situation où tu les reniais plus ou moins.
Non, non, c'est ça, vraiment pas. Là. Mes parents, c'est des gens qui sont d'un grand support dans ma vie et que j'aime beaucoup aussi. Côté musique, ils sont tout le temps là. Ils manquent presque jamais de concerts. Ils m'encouragent beaucoup. Ils m'ont beaucoup beaucoup aidé dans mes études, financièrement, tout ça. Fait que c'est des gens que j'apprécie beaucoup aussi. Puis, ben évidemment, là, je veux dire, mais pas évidemment, parce que c'est pas tout le monde qui a la même relation avec ses parents, donc je veux pas englober tout le monde, mais en tout cas, c'est ça, je me sens choyée de pouvoir avoir cette relation-là avec mes parents, que ça se passe bien, puis que c'est ça, qu'ils soient là pour moi. Là.
Toi, t'as des frères et sœurs?
Oui, oui, c'est ça. J'ai un frère, comme ma sœur et moi, on dit fait maison. Okay. Mon frère n'est pas adopté. C'est mes deux parents adoptifs qui l'ont conçu. Puis sinon, j'ai une autre petite sœur qui a été adoptée, mais elle était québécoise déjà, là. Elle venait de Longueuil. Fait que, voilà.
Et donc, vous avez tous les trois des histoires vraiment différentes au sein de la même famille.
Exactement.
Est-ce que ça a amené des questions entre vous ou même des tensions parfois?
Des tensions, honnêtement, je pourrais pas dire non. Je pense qu'on a toujours été une famille unie, puis il y a jamais eu de différence de la façon qu'on était traité si on était un enfant adopté versus un enfant que mes parents ont conçu. Tu sais, fait il y a jamais eu de différence de traitement entre mon frère, moi et ma sœur. Fait que, tu sais, ça, je suis aussi reconnaissante parce que je sais qu'il y en a qui, même dans des familles pas reconstituées ou adoptées ou peu importe, qui peuvent ressentir ce genre de traitement de faveur. Donc, il n'y a jamais eu favoritisme chez nous. On a tous été traités en égaux égal. C'est ça. Fait que non, on n'a jamais vraiment... Tu sais, on est très soudés. Je suis proche de mon frère et ma sœur, les deux. Là, on s'entend très bien. Puis, tu sais, on s'aime beaucoup. Puis, on se le dit aussi. Là, on a grandi dans une famille où est-ce que l'affection, tout ça, être capable de se dire « je t'aime », tu sais, ça, c'est quelque chose qui fait partie de la maison. Donc, je suis très reconnaissante parce que je sais que malheureusement, c'est pas pour tout le monde. Fait que non, c'est ça. On a vraiment été choyés là, d'avoir des parents comme ça qui nous ont pas fait ressentir cette différence-là. Là.
Puis tu disais que tes parents te soutiennent beaucoup dans le chant parce que c'est le métier que tu as choisi.
Exact.
D'ailleurs, on peut faire un petit instant de promotion.
Bien sûr.
Je crois que tu as des concerts qui s'en viennent.
Oui, oui. Ben, en fait, récemment, j'ai commencé en fait les réseaux sociaux de mon band qui s'appelle FITZ, F.I.T.Z. Donc, en acronyme. Et puis, c'est ça, on a maintenant une page Instagram et un compte Facebook. Le compte Facebook est au nom de FITZ sans les points. Et puis, la page Instagram, c'est le même acronyme avec les points FITZ.Official. Donc, F.I.T.Z.Official. Et c'est ça. Donc, on a des concerts cet été. On en a un le 2 juillet qui arrive d'ailleurs à grands pas. C'est à la Sala Rossa. Sinon, on a un concert aussi le 30 juillet qui est à la Soterena. J'espère que je ne me trompe pas. Et sinon, on en a aussi au mois d'août, le 17 août. Ça, ce serait au... j'ai un blanc de mémoire. Vert Bouteille. Et le 11 septembre à l'Escogriffe. Donc,
tout ça, c'est à Montréal.
Voilà, c'est tous des spectacles à Montréal. Puis c'est en plateau double avec une amie musicienne incroyable, Marie-Soleil Lambert. On a décidé de se partir un spectacle pour l'été pour essayer de se booker quelques dates à Montréal. Puis c'est ça, ils vont jouer ses compositions à elle en première partie. Puis après ça, ce sera mon groupe en deuxième partie.
Pour rester sur cette thématique du chant.
Oui.
Donc, toi, tu avais commencé tes études en trombone. Parce
exactement.
Qu'à l'origine, tu joues du trombone.
Exactement. J'ai fait la majeure partie de ma vie en musique en trombone.
Et finalement, tu t'es rendu compte que c'était le chant qui te convenait.
C'est ça, ouais. Pendant la pandémie, on dirait que j'ai comme eu un moment de réalisation. T'sais, un peu comme tout le monde, on est enfermé chez nous, on réfléchit, des fois un peu trop. Puis là, j'ai comme eu une crise. Puis au début, en fait, l'idée qui était venue, c'était d'arrêter totalement l'école. Puis là, je me suis dit, ben non, mais ça...
Et arrêter la musique aussi?
C'est ça. On dirait que là, j'étais comme, elle, ça va pas du tout. Faut que je change, faut que je fasse d'autres choses. J'aime pas ce que je fais. Je me sens pas bien. Genre, j'aime ça jouer du trombone, mais ça m'apporte trop de stress. Puis on dirait que je mélangeais tout dans le même bateau parce que, ben, c'est ça. C'est facile de tomber dans des spirales quand on est seul avec nous-mêmes. Fait que c'est ça. Puis à force de parler avec mes parents, mes proches, tout ça, j'ai réalisé en fait que c'était pas la musique que je voulais quitter, c'était peut-être l'instrument en tant que tel, que j'avais besoin de prendre une pause, de m'éloigner, puis peut-être même de faire un changement. Ce que j'ai fait, j'avais réussi, en fait j'avais fait un an en bac général avec trombone, jazz comme instrument. Puis après ça, j'avais réussi à entrer en interprétation à l'Université de Montréal aussi, en trombone jazz. Puis j'ai fait une session, session d'automne 2020. Puis c'est en janvier 2021 que là, j'ai fait le switch pour chant. Fait que la première session, c'était comme une session non officielle parce que je pouvais pas entrer directement parce que les gens avaient pas encore fait leur audition. Donc, c'était pour être sûr de ne pas privatiser quelqu'un d'une place au programme. Puis après ça, j'ai refait mes auditions au mois de septembre, ben, en fait, un peu plus tard, pour pouvoir entrer en automne 2021, à ce moment-là, okay, en chant. Puis là, c'était comme ma première session officielle. T'sais.
Dans ce balado, on parle d'identité. Est-ce que le fait de passer de tromboniste, je crois que c'est comme ça qu'on appelle les gens de trombone, à chanteuse, ça a changé beaucoup de choses dans ton identité, la façon dont toi tu te percevais?
Ben oui et non. En fait, on dirait que même si j'ai arrêté de jouer du trombone, on dirait que tu sais, j'ai toujours le réflexe de dire je suis chanteuse et tromboniste. Des fois, ça peut m'apporter un peu un sentiment d'imposteur parce que ça fait... Quand j'ai arrêté de jouer du trombone, en fait, quand j'ai fait un changement d'instrument, j'ai juste arrêté complètement de jouer du trombone. Puis, je pense que... l'instrument, je suis quelqu'un qui a un gros stress, je pense, de performance, puis qui est très dur envers soi-même. Puis j'avais l'impression que ce que je voulais atteindre au trombone, c'était quasiment impossible ou que j'y arrivais juste pas. Puis c'est ça, fait quand j'ai arrêté de jouer du trombone, je pense que j'ai arrêté de jouer trop tard, entre guillemets, en mode j'aurais dû peut-être prendre un pas de recul avant ça, puis essayer de me mettre dans des situations qui sont pas des situations trop anxiogènes non plus, puis qui me permettent de jouer pour moi seulement, c'est ça, pour moi. Fait que c'est ça, fait qu'on dirait que le fait que maintenant j'ai encore oui je suis chanteuse tromboniste tout ça, je pense que ça m'aide quand même de par la vision de la musique, le fait d'avoir joué un cuivre avant de commencer le chant, mais je dis commencer le chant, j'avais toujours fait les deux côte à côte, mais d'être vraiment plongé seulement dans le chant, et j'ai l'impression que ça me fait voir un autre côté un peu du métier de chanteuse. Je dans mon écriture aussi de la musique, c'est beaucoup plus j'écris des choses, c'est en pensant littéralement comme un cuivre. Puis on me le dit souvent dans mes compositions, dans mes improvisations, c'est comme hey, mais toi t'improvises comme un brass, t'improvises comme un cuivre, on l'entend encore dans ta musique. Fait que je me dis, c'est quelque chose dans mon identité de musicienne, en fait, qui est jamais partie, fait qui est encore là. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool, en fait, que ce soit encore présent dans ce que je fais. Puis quand j'écris aussi des choses pour les cuivres dans mes compositions aussi, c'est quelque chose, c'est une autre vision aussi, là. T'sais, la plupart des gens qui chantent, ben c'est plus rare, mettons, quelqu'un qui a joué ben, surtout du trombone et qui chante, c'est un combo. Il y en a plusieurs, mais c'est peut-être, tu sais, on voit beaucoup plus, mettons, de chanteurs qui jouent du piano, de chanteurs qui jouent de la guitare ou, tu sais,
des instruments où tu peux chanter et jouer en
exactement
même temps.
Exactement, tu sais, quand tu joues d'un instrument, mais tu sais, si je joue du trombone, je joue que du trombone, ou si je chante, tu sais, ou sinon ça va être deux parties dans la pièce. Mais bref, fait qu'on dirait que le fait d'avoir ça, je trouve que c'est une bonne corde à mon arc là, pour dire hey, mais moi j'ai ce background là, fait que ça m'amène ailleurs.
Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir choisi le jazz, qui est une musique qui a été développée par la communauté noire américaine, toi, en tant que personne noire, c'est quelque chose qui te rejoint plus?
Ou... Ah oui, à 100% de par ce qu'ils disent dans les paroles. T'sais. Si je pense au blues, c'est souvent des chansons qui expriment la douleur des Noirs dans le temps soit de l'esclavagisme ou même après, toutes les injustices, en fait, qu'on a vécu, qu'on vit encore. Fait que je trouve ça vraiment intéressant par le jazz 100%. Puis c'est souvent aussi les grands noms du jazz, tu sais, c'est des gens de la communauté noire, tu sais. Puis c'est, en tout cas, je trouve ça vraiment impressionnant, en fait, qu'on continue de véhiculer là, cette musique-là, même encore en 2024. Je pense que c'est ça, c'est vraiment un style de musique riche. Puis à 100%, que, tu sais, c'est pas juste riche par la musicalité, mais vraiment par l'histoire. Fait que je me retrouve beaucoup là, dans cette musique-là. Là, quand j'étais plus jeune, je pourrais pas dire que c'est ce qui m'a à 100% envoyé dans le jazz. Parce que, je veux dire, j'étais au secondaire. Donc, tu sais, au secondaire, c'était un volet pop jazz, que ça s'appelle. C'était à l'école, c'est ça, à la polyvalente Hyacinthe Delorme. Fait que, tu sais, on jouait du pop, mais on jouait du jazz aussi. Fait que c'est moi, après ça, qui a décidé de continuer dans ce volet-là rendu au cégep. T'sais, au cégep aussi, on pouvait jouer autre chose, mais moi, c'était vraiment le jazz. Fait que j'étais encore en trombone jazz. Puis, encore même rendu à l'université. T'sais, je veux dire, on apprend tous une base de classique quand même dans la théorie et tout ça. Mais c'est vraiment le jazz qui prédomine. Puis c'est toujours ça qui m'a intéressé aussi, là.
Est-ce que tu penses que tu as quand même une approche différente du fait d'être une femme noire, comme tu le disais, comme beaucoup de grandes chanteuses de jazz, dont Ella Fitzgerald?
Oui, oui.
mais en même temps, d'être une Québécoise francophone?
Oui, 100%. J'ai l'impression que mon approche du jazz, effectivement, comme tu as nommé les grands chanteuses, il y a Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, c'est toutes des chanteuses incroyables. Puis j'ai l'impression que côté timbre vocal aussi, il y a quelque chose de différent d'être une chanteuse noire. Là, je dis pas que toutes les chanteuses noires chantent de la même façon, mais il y a un certain coffre, pardon, qui diffère, un certain timbre aussi qui diffère. Fait que j'ai l'impression qu'avec cette approche-là et mon background, ça peut vraiment donner un bon mélange de culture, puis d'idées, puis d'influence surtout aussi, là, parce que, tu sais, je pense à, si je prends par exemple mon père qui écoutait beaucoup de rock progressif, puis qui en écoute encore, mais tu sais, le fait que moi j'ai écouté ça aussi parce que mon père en écoutait, ben ça m'apporte différentes choses aussi à la musique que j'écoute, mais à la musique que j'écris aussi, puis que je compose. T'sais. C'est vraiment un mélange de toutes mes influences, puis que ce soit musical ou dans ma vie, t'sais, les influences sont là quand même. Fait que je pense que, oui, je pense que le bagage, le fait que j'ai tout ce mélange-là de culture, etc., je pense vraiment que ça, en tout cas, j'espère que ça m'est bénéfique en musique, mais je pense que oui.
Là, ça fait plus de 20 minutes qu'on parle. Est-ce qu'il y a des sujets importants par rapport à toi, ton identité, dont on n'a pas parlé et dont tu aimerais parler?
C'est une bonne question. Je sais pas. Tu as des questions en particulier?
Ben là, c'est plus le moment où c'est ça. Je laisse libre.
Ah, laisse libre. Parfait.
Peut-être par rapport à ta culture queer? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire?
C'est ça, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, le fait d'être une femme noire non hétérosexuelle, c'est sûr que ça apporte plusieurs choses, mais aussi simple que dans les pièces de musique, souvent, des fois, c'est un peu une approche plus hétéro, parce que, par exemple, le jazz, c'est des chansons, c'est des vieilles chansons, là, donc ça date pas d'hier, comme on dit. Fait que des fois, dans les paroles, m'est arrivé de changer quelques paroles pour chanter quelque chose qui serait peut-être plus dirigé envers une fille que d'une femme à un homme, grand classique, je vous aime, mon amour, tout ça, tu sais. Fait que je pense que oui, le fait qu'il y ait mon identité sexuelle aussi que j'exprime haut et fort, et que, tu sais, je me considère comme out, sortie du placard, je pense, en tout cas, j'espère que ça va influencer aussi ma musique à l'avenir. Puis que, tu sais, ça va toujours faire partie de mon identité, de par ce que je représente physiquement. Tu sais, je pense que, côté, mettons, habillement, je suis assez androgyne. Tu sais, je vais autant porter des choses un peu plus masculines que porter des choses un petit peu plus féminines. Fait que ça, j'aimerais beaucoup que ça transparaisse aussi dans mon image d'artiste. Là, je suis encore en train de former cette image d'artiste, mais éventuellement, j'aimerais beaucoup que c'est ça, que ce soit affiché, pas en mode Helen Fitzgerald est une chanteuse queer. Je veux pas que ça soit juste ça au-dessus de mon nom, mais que ça fasse partie intégrale de ma personne, puis que les gens sachent, OK, c'est une artiste noire de Montréal, nanana, elle est queer. Puis, tu sais, que ce soit une information comme ça, donnée dans la même phrase, en mode, ça fait partie de moi, ça l'influence mes pièces, ça l'influence mes compositions, mon regard sur la vie à 100% aussi. Donc, comme un mélange de tout ça, là. Fait que, ouais, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup qui transparaisse plus, là.
Et ma dernière question, qui donne du fil à retordre,
oui.
C'est si tu devais nommer un objet culturel qui représente toutes les influences que tu rassembles en toi, quel serait cet objet?
Comment je pourrais décrire ça? C'est vrai que c'est une question qui donne du fil à retordre. Je pense que le... Je sais pas si c'est un objet, mais la polyvalence, l'ouverture d'esprit, puis toujours la quête du renouveau. Je sais pas comment je pourrais mettre ça dans dans un objet. De se réinventer. Ouais, on dirait que j'ai de la misère à mettre le doigt dessus, mais c'est ça, j'ai l'impression que je suis quelqu'un qui veut toujours plus, qui est très perfectionniste, mais en même temps très ouverte d'esprit par rapport à ce qui est l'art, par rapport à ce qui est dans mon art, par rapport à ma personne, par rapport aux autres. J'ai vraiment envie, en fait, que les gens me voient pour moi, à travers ce que je fais. Fait que je pense que c'est ça, c'est ma personne. L'objet, là, en fait, là, c'est moi. L'objet, c'est Helen Fitzgerald. Je dirais ça comme ça. Je veux vraiment... je pense que j'ai des choses à offrir, puis je pense que les gens... j'ai envie d'offrir aux gens, en fait, de la musique, ma personne, vraiment de... C'est ça, de me dévoiler, puis que tout le monde me voit pour ce que je suis. Et puis, c'est ça que, dans le meilleur des mondes, qu'ils apprécient aussi. Ça se peut qu'ils aiment pas, mais s'ils apprécient, c'est encore mieux. Fait que, non, vraiment, je pense que l'objet, là, c'est vraiment, c'est Helen. C'est qui Helen? Je suis qui, moi? C'est ça, de me découvrir, vraiment. J'aimerais beaucoup.
Belle voilà. Réponse. Merci, voilà. Merci beaucoup, Helen.
Mais ça fait plaisir. Merci à toi.
Merci d'avoir écouté ce 36e épisode de Québec au pluriel, comme toujours produit avec CISM. Si vous souhaitez en savoir plus sur la carrière de musicienne d'Helen, vous pouvez notamment aller lire le portrait que j'ai rédigé d'elle sur le site quartierlibre.ca. Il s'intitule « Sur la bonne voie VOIX ». Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un ultime épisode avant un congé d'été pendant lequel je ne laisserai bien sûr pas Québec au pluriel complètement de côté.